Et avec le philosophe Luc Ferry. Bonjour Luc.
Bonjour François.
Pour Esprit Libre, Luc avec nous chaque lundi, fidèle au poste. On parlait ce matin dans les journaux de la rédaction de Radio Classique de cette affaire de Viry-Châtillon avec quatre jeunes hommes de 17 à 20 ans et une adolescente de 15 ans interpellée vendredi, déférée hier. Une information judiciaire ouverte, notamment pour assassinat après le lynchage d'un jeune de 15 ans, donc à Viry-Châtillon. Est-ce que ce fait divers, ce drame, avec les autres qui ont émaillé les derniers jours, les dernières semaines, vous fait penser qu'on va vers une société toujours plus violente, Luc Ferry?
Oui, c'est déjà le cas. J'entendais une dame ce matin dire que la violence à l'école n'avait pas augmenté. Les bras m'en sont tombés des mains, si j'ose dire. Non, ça a augmenté considérablement. On n'a pas d'instrument de mesure parce que après mon départ du ministère, on a cassé le logiciel Cigna. On l'a supprimé, qui était un logiciel que Claude Allègre avait mis en place, qui était destiné à permettre aux chefs d'établissement de signaler les violences. C'est pour ça que ça s'appelait Cigna, d'ailleurs, comme signalement. Bon, ça a été supprimé, donc on a cassé le thermomètre, mais la violence a considérablement augmenté. D'ailleurs, bon, l'affaire Samuel Paty, Dominique Bernard, celle que vous venez d'évoquer pour un élève assassiné devant son collège, bon, ça a considérablement augmenté. Et il y a deux facteurs de violence qui sont très différents. Il y a une violence islamiste qui s'attaque à cette école, parce que l'école, c'est le lieu de la laïcité, c'est le lieu de l'enseignement républicain, c'est le lieu, l'idéal de l'école, c'est ce qu'on appelle le penser par soi-même. Donc c'est le contraire absolu du religieux, d'une certaine manière.
Et surtout du religieux, de la doctrine.
Voilà, de la doctrine et du religieux dogmatique. Donc il y a une violence islamiste qui est de plus en plus forte et qui monte depuis 20 ans de manière exponentielle et qui est très présente, qui se réfracte à l'intérieur des établissements et qui fait que 50-60% des professeurs ont peur, mais je vous mettrai dans une classe et je m'y mettrai moi-même, j'aurais peur aussi de parler de liberté d'expression, d'évoquer les caricatures, d'évoquer la Shoah, etc. Bon. Et puis il y a un deuxième type de violence qui n'a rien à voir avec la religion, avec le fondamentalisme, et qui est lié à l'effondrement des lois et des valeurs traditionnelles. J'en parlais hier avec Danny Cohn-Bendit, c'était pas pour l'embêter, mais je lui disais, dans ton mouvement de 68, il y a deux slogans qui sont vraiment significatifs de quelque chose, il est interdit d'interdire, et surtout, jouir sans entrave, et je lui rappelais la phrase de Camus, puisqu'on parle de philosophie, Camus, je trouve la phrase est magnifique, quand il dit un homme, ça s'empêche. Voilà. Jouir sans entrave.
La liberté, c'est de savoir se mettre des règles.
Bien sûr. La liberté, c'est l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite, dit Rousseau dans le contrat social. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite. Mais imaginez ce que ça veut dire jouir sans entrave. Imaginez si vous appliquez cette formule. Ça veut dire le viol, ça veut dire la pédophilie, ça veut dire tout ce que vous voulez.
D'ailleurs, il y a eu une sorte de MeToo des mouvements 68-art et post-68-art.
Bien sûr. Et la thèse que je défends depuis des années, pardon de me citer moi-même, ça fait vieux mammifère, mais c'est parce que on l'entend nulle part, ça fait paranoïaque maintenant, mais c'est vrai quand même, c'est que ce qui est derrière mes 68, c'est le capitalisme schumpeter, le capitalisme d'innovation.
Il y a une schumpeter, phrase, on rappelle, la destruction créatrice.
La destruction créatrice. Parce que, vous savez, les théoriciens de l'école de Francfort, Adorno, Horkheimer, Marcuse, ils avaient, et j'ai traduit ces gens-là, bon, j'ai traduit ça en français, ils avaient un thème qui est très profond, ils parlaient de désublimation répressive. Ça veut dire quelque chose d'extrêmement profond si je traduis. J'aime pas le jargon. Traduisons. Ce que Freud explique dans tous ses livres, c'est que la sublimation freine la consommation. C'est-à-dire que la sublimation, c'est les valeurs traditionnelles. La spiritualité, la morale, le goût de l'art, etc. Plus vous avez des valeurs spirituelles dans la tête et dans le cœur, moins vous éprouvez le besoin de consommer. Et il fallait détruire ces valeurs. Il fallait que ces valeurs traditionnelles fussent déconstruites. C'est toute la déconstruction qui est derrière. Déconstruction. Il fallait que ces valeurs traditionnelles fussent déconstruites pour que nos enfants et nous-mêmes nous entrions dans l'ère de l'hyperconsommation de masse sans laquelle le capitalisme ne pouvait pas se développer. Et donc, il y a eu une alliance entre mai 68 et le capitalisme. C'est le paradoxe, c'est l'alliance des deux. D'ailleurs, tous les 68ards se sont reconvertis dans l'économie florissante, dans la social-démocratie bontain, voire à l'extrême droite. Je citais personne, mais enfin, ça va de soi. Et donc, on a eu une alliance dans les années 60 du capitalisme moderne, de la mondialisation capitaliste et de la déconstruction Derrida, mais aussi la déconstruction 68arde. Et c'est cette déconstruction des valeurs traditionnelles qui a eu des effets très positifs aussi, la libération des homosexuels et des femmes, c'est pas rien. Et moi, je suis pas un fanatique anti-68arde, mais je dis simplement que dans la déconstruction de l'autorité, de l'autoritarisme, il y a eu la déconstruction de la politesse et de la civilité. voyez, c'est ça qu'on a vécu et c'est extrêmement profond. C'est à la fois l'histoire de 68 et du capitalisme mondialisé qui
et
se sont rejoints.
Et donc ça nous amène jusqu'à cette affaire Shamseddine.
Oui, absolument. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de, pardon de parler comme ça, mais quand il n'y a plus de règles, il n'y a plus de loi, jouir sans entrave, il est interdit d'interdire, bah ça a fini par s'appliquer. Et donc si on n'a plus de loi, si on n'a plus d'interdit et si on veut jouir sans entrave, moi je pense à cette vieille de 89 ans, cette vieille dame qui a été tabassée par trois mômes à Marseille, dont un qui filmait. Il a été condamné à rien. Rien. Il a été relâché immédiatement. Alors qu'il filmait la scène.
Même
mais
pas
il aurait
pour
dû avoir.
Complicité ou non-assistance.
C'est dingue. Oui, bien sûr, complicité, non-assistance à personne en danger, etc. Il aurait dû prendre, je sais pas, moi, 3 ans de prison ferme. Mais rien. Zéro. Même pas un rappel à la loi. Voyez. Et donc, on est dans une société où l'effondrement de la, alors, écoutez bien ça, parce que c'est l'effondrement des lois, mais l'expansion expansionnelle des droits individuel. On a tous des droits, on tient nos droits, mais en revanche, la loi, on s'en tape, elle est morte. C'est ça qu'on vit aujourd'hui. Et donc, c'est à la fois l'alliance du capitalisme et de mai 68, et de la déconstruction. Bon, c'est cette idéologie absurde de la déconstruction qui a envahi l'espace américain et qui a abouti au politiquement correct et au wokisme américanisé. Voilà. Et donc, c'est ça qu'on vit aujourd'hui.
Est-ce que le début de réponse du gouvernement sur l'éducation, sur les valeurs, notamment le choc d'autorité, vous semble à la hauteur ou
non.
Vous demandez à voir les actes au-delà de ce discours qui, j'imagine,
bien sûr,
rejoint
mais au moins,
ce que vous
Gabriel Attal a eu le mérite, quand il est arrivé à rue de Grenelle, au ministère de l'Éducation, il a eu le mérite au moins de dire les bons mots et de tenir le bon discours. C'est déjà ça, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas suffisant. Et c'est vrai que quand on dit ce que je vous dis là, on passe pour des vieux crétins. Bon, et c'est vrai que, voilà, que ce soit Régis Debray, que ce soit... on est un certain nombre à dire ça depuis un moment. Et donc, il faut en tirer les conséquences. Bon, c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, le ministère de l'Éducation a laissé tout s'écrouler. J'y peux rien, c'est pas de ma faute.
Autre fait que je soumets à votre sagacité dans l'actualité, c'est cette question des déserts médicaux et là aussi de réponses que souhaite apporter le gouvernement avec ce qu'on appelle une taxe lapin. Donc, si vous avez un rendez-vous et que vous n'y allez pas, ça vous coûtera quand même 5 €.
Oui.
L'inversion du parcours de soins. Hein, donc, on avait dû passer par un généraliste pour avoir un rendez-vous ensuite chez tout un tas de spécialistes. Là, finalement, on peut aller directement chez un spécialiste. Est-ce que c'est une bonne idée pour faciliter l'accès aux soins? Est-ce que ce sont des rustines? Peut-être que là aussi, on va en fait rejoindre le capitalisme schumpeterien et mai 68. Dans la consommation de soins à la carte.
Oui, c'est... Bon, moi, je suis tout à fait pour cette taxe lapin. D'abord, je trouve que le nom est très mignon, donc rien que ça m'enchante.
Ça passe plus facilement.
Oui, ça, la taxe lapin. C'est mignon. Si vous posez un lapin, alors vous êtes taxé. Je serais même assez d'accord pour qu'elle soit un peu plus élevée, mais bon, parce que je trouve que c'est vraiment scandaleux pour les médecins qui attendent, qui sont là, en plus ils sont débordés, et donc ils attendent quelqu'un qui ne vient pas. Je trouve ça absolument scandaleux, donc je trouve ça très bien, ça va dans le bon sens, évidemment. Maintenant, la difficulté dans ces domaines-là, c'est que il faut qu'on ait suffisamment de médecins, et c'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des déserts médicaux. Et donc, est-ce que la télémédecine, par exemple, peut être une solution? Moi, je suis assez pour, parce que je pense que... Et moi, j'aime bien l'idée que le généraliste soit un aiguilleur. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée.
Donc vous aimiez bien le parcours de soins tel qu'aujourd'hui.
Voilà. Alors maintenant, si on n'a pas suffisamment de médecins, je suis pas un spécialiste du nombre de médecins en France, donc c'est peut-être une bonne idée. Mais si
je rappelle que le numerus clausus
a été
débridé, mais maintenant les études de médecine prenant 10 ans, il faut 10 ans par rapport au début du premier quinquennat de Macron pour que ça commence à arriver.
Je sais. Moi, j'avais débridé le numerus clausus. J'avais un de mes directeurs de cabinet était médecin, José Refers, qui était un type formidable d'ailleurs. Il a immédiatement débridé le numerus clausus, il faut le faire. Mais en même temps, il faut aussi pas brader les études de médecine. Donc c'est quand même des études très difficiles. Il faut qu'elles restent très difficiles parce qu'on a vraiment, vraiment besoin de compétences en matière médicale aujourd'hui. Donc plutôt, oui, ces mesures-là vont plutôt dans le bon sens. Mais j'aimerais bien que le généraliste reste un aiguilleur. C'est quand même son rôle parce que c'est pas à peine d'envoyer chez un spécialiste quelqu'un qui a un rhume.
Et quand on donne plus de pouvoir aux pharmaciens, même pour donner certains antibiotiques.
Non, ça.
Mais est-ce qu'on remet pas en cause, pour le coup, les 10 ans d'études dont on parlait, qu'ont fait les médecins de leur côté par rapport aux pharmaciens?
Alors là aussi, est-ce qu'on va demander aux pharmaciens de poser le diagnostic? C'est toute la question.
Il y a forcément une part un peu entre les deux.
Oui, c'est ça qui est... Moi, je suis très pour qu'on élargisse le métier de pharmacien, mais pas à tout et n'importe quoi. Par exemple, c'était très bien que les pharmaciens puissent vacciner, par exemple. Ça, c'est vraiment excellent. Et en plus, les pharmaciens, ils ont fait des études, c'est pas des marchands de savonnettes. Hein. Ce sont des gens qui ont vraiment fait des études.
Ce sont aussi, parfois, des marchands de savonnettes. Ils en vendent.
Ah non, mais ils en vendent, mais c'est pas le résultat de leurs études. Ils ont fait des vraies études. Sinon, vous pouvez avoir des parapharmacies où simplement vous achetez des trucs qui sont pour lesquels il n'y a pas besoin d'ordonnance. Donc moi, ce que je crains, c'est l'affaiblissement de la compétence des médecins. Mais encore une fois, on n'en a pas parlé dans cette loi, mais la télémédecine peut être une solution. La télémédecine, ça peut vraiment être un moyen pour un généraliste qui voit bien que c'est quelqu'un, bah, si c'est simplement une grippe ou un rhume ou si c'est un bobo, voilà, la bobologie, bon, oui. Ça lui permet de voir ça en urgence et ça permet de soulager les tâches administratives des médecins aussi, oui, qui sont un vrai problème. Et puis l'encombrement du cabinet. Donc ça peut être aussi quelque chose de très utile.
Luc Ferré, on arrive à 6 mois de guerre entre Israël et le Hamas. On est le 8 avril, c'était le 7 octobre, j'ai été frappé par cette citation du journal La Croix ce matin d'une manifestante du côté de Tel Aviv qui dit « Le 7 octobre, nous étions les Ukrainiens, aujourd'hui nous sommes de plus en plus vus comme les Russes par rapport à ce qui se passe à Gaza. » Comment voyez-vous cette situation
ben, si c'était comme les Russes, ce serait la bonne nouvelle. C'est plutôt l'accusation, c'est plutôt vous êtes des néo-nazis. C'est pas Poutine, c'est d'ailleurs la caricature de cet humoriste de France Inter, caricature de Netanyahou en nazi. Donc voilà. En hitlérien, en Hitler même. Et donc, voilà, ce qui est clair, un, c'est que Israël a perdu la bataille de la communication dans le monde entier. Pas simplement chez les étudiants américains gagnés par le wokisme ou à Sciences Po. Il a gagné, le Hamas a gagné la bataille de la communication et certainement qu'il est très probable que 80% des Gazaouis soient plutôt pro-Hamas que plutôt que pro-israéliens. Donc, c'est pas une bonne nouvelle. Et deuxièmement, les Israéliens sont bien obligés d'écouter Joe Biden. Sans les États-Unis, Israël n'est qu'une toute petite chose. Et donc, sans l'allié américain de toujours...
Il a semblé quand même beaucoup plus faible pour peser face aux décisions israéliennes.
Ah ben si, là, Israël se retire du Sud à cause des injonctions de Joe Biden. En même temps, c'est un repli stratégique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Parce que connaissant bien Israël et les Israéliens, jamais, et surtout pas Netanyahou, n'accepteront de quitter cette guerre au milieu du guet. Donc, ils iront jusqu'au bout. Voilà. Mais ils sont quand même obligés d'obéir à un certain nombre d'injonctions américaines parce qu'encore une fois, sans les États-Unis, c'est quand même leur allié de toujours. Israël serait dans un état d'affaiblissement considérable. Donc le retrait du Sud, c'est quelque chose qui est une forme d'obéissance aux injonctions de Joe Biden. Mais je suis absolument convaincu qu'Israël ira jusqu'au bout de cette guerre. Voilà. D'ailleurs, la question de Rafah est toujours ouverte, la question de l'intervention. Voilà. Donc ça reste un des projets de guerre de Netanyahou. Et donc, je suis convaincu qu'un Israélien n'arrête pas au milieu. Voilà.
Luc Ferry, merci beaucoup. Esprit libre avec nous chaque lundi sur Radio Classique à 8h40. Merci beaucoup, Luc.
Merci,
très bonne journée,
très
bonne semaine.
À très bientôt.
Dans un instant, les infos à 9h.